La note antique. Bonjour, bienvenue dans cette émission consacrée à la musique dans l'Antiquité. Aujourd'hui, je vais vous parler des musiciens à la cour de Marie en Mésopotamie. Marie était à l'époque du roi Zimri-Lim, vers 1775 avant notre ère, la capitale d'un royaume de taille moyenne, situé en Mésopotamie. Elle a été conquise et détruite en -1761 par les troupes du célèbre roi de Babylone, Hammurabi. Les soldats pillèrent et mirent le feu au palais, les murs s'écroulèrent à l'intérieur des pièces, recouvrant alors des milliers d'archives. Bien des siècles plus tard, en 1933, c'est l'archéologue André Parot qui va découvrir sur le site des milliers de tablettes gravées en caractères cunéiformes. Parmi ces archives, de nombreuses tablettes vont nous renseigner sur la vie des musiciens. Dans le seul palais de Marie, par exemple, vivaient plus de 200 musiciennes professionnelles ou apprenties. Plus de 90 femmes y sont désignées comme grandes musiciennes. On dénombre par ailleurs que 40 d'entre elles sont logées dans un lieu désigné comme la maison des joueuses de lyre. Mais comment vivait-on dans le palais et quelles étaient les occupations des musiciennes? Sur une tablette, un ministre explique au souverain qu'une insolation a frappé la jeune princesse venue de la côte occidentale. Elle se trouvait dans la cour de la chapelle aux peintures pour la cérémonie Shurarum. Cette tablette nous apprend que les musiciennes ne servaient pas uniquement à égayer la vie profane du palais, elles jouaient aussi un rôle dans les cérémonies des cultes. Le roi n'entretenait pas ses femmes seulement pour écouter leur musique. Il est vrai qu'une partie d'entre elles étaient ses concubines, mais nous savons également que d'autres ne l'étaient pas. Le musicien de plus haut rang portait le titre de Nargalum, que l'on peut traduire par chef de musique. Sa place sociale semblait très importante car elle était parfois citée avant les gouverneurs de province. On apprend également sur ces tablettes que Warad Ilishu, le chef de musique de Zimri-Lim, fut envoyé deux fois à Alep pour des missions diplomatiques. Fait étonnant, son premier voyage avait un but religieux et le second économique, mais dans aucun des deux la musique n'a joué un rôle. Mais au-delà de ses missions pour le roi, sa fonction principale était d'organiser la vie musicale de la capitale. Il était responsable de la formation, constituait les ensembles de chœurs et les orchestres, et gérait également les instruments de musique. Parmi les habitudes diplomatiques de l'époque, l'échange de cadeaux entre souverains tenait une place essentielle. Les musiciennes et musiciens étaient des présents très recherchés. Si on trouve en grand nombre des apprentis dans le palais de Marie, c'est qu'une partie d'entre elles était destinée à être offerte à des souverains étrangers. On sait par exemple que le premier ministre du roi d'Alep était prêt à intervenir en faveur du roi de Marie si une musicienne lui était envoyée. Le fait que ces musiciens furent échangés entre Hazor en Palestine et la cour de Marie, ou entre Marie et Alep, ou même Babylone et Carchemish, nous fait comprendre que ce jeu de dons et de contre-dons a largement contribué à l'unification culturelle du Proche-Orient. Les répertoires s'enrichissaient, les techniques circulaient, les modes se répandaient. Bonne semaine à tous !